des trémolos dans votre voix. On ne peut pas vous obliger à... Non, vous chantez selon votre cœur. La chanson, ça vient du fond de soi. Donc, lorsque vous êtes sous votre douche, vous vous mettez à fredonner une chanson. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, vous vous mettez à fredonner une chanson. On ne peut pas vous imposer la chanson. Vous chantez, vous fredonnez à ce moment-là. Ce qui vient du fond de vous, ce qui exprime votre liberté totale. Eh bien, c'est par ça que nous pouvons passer. Par la chanson, par la danse, par quoi, par le cinéma, par tout ce qui touche à la liberté de l'homme. C'est par là que nous pouvons passer pour éduquer notre peuple, que ce soit du point de vue de l'hygiène, que ce soit pour l'alphabétisation, que ce soit pour organiser le travail, que ce soit pour donner le courage. C'est par la musique que l'on envoie les troupes au front. Vous avez vu une armée sans musique depuis le temps des Romains et même avant les Romains? Vous avez vu dans la Bible, c'est pas en sonnant la trompette que les trompettes de Jéricho. On ne peut pas faire, on est obligé de passer par là. C'est ce qu'il y a de plus fort. L'art. Et c'est pourquoi nous croyons à l'art beaucoup.
Mais dans ce contexte culturel, n'est-ce pas une contradiction de vouloir casser certaines structures traditionnelles? Les chefs coutumiers étaient quand même gardiens de la sagesse ancestrale.
Pourquoi, chez vous en Allemagne, en Europe, vous avez supprimé la ceinture de chasteté?
Parce que c'était un instrument de répression.
Bon, d'accord, c'est une sélection, vous avez choisi.
Ouais.
Nous aussi, nous avons choisi ce qui est bon pour nous et nous laissons de côté ce qui n'est pas bon pour nous. Si le choix était mauvais, vous savez, en matière de réflexe culturel d'un peuple, vous ne pouvez pas décider contre la volonté d'un peuple. Vous pouvez dire aux gens, il est interdit de chanter telle chanson. D'accord, dans la rue, ils ne vont pas le chanter, mais en cachette, ils vont chanter ça. Vous pouvez interdire une religion, mais les gens vont se cacher pour prier dans cette religion-là, pour pratiquer cette religion. Vous pouvez interdire, dans les pays où on essaie d'interdire les films, les livres pornographiques, les gens se cachent pour vivre la pornographie, pour pratiquer la pornographie. Au contraire, il faut éduquer librement les gens. Et s'ils l'acceptent, il n'y a pas de problème. Et ils y mettront fin. Donc si ici, nous avons mis fin à un certain nombre de pratiques, c'est parce que notre peuple est d'accord. L'excision des femmes, par exemple, nous avons mis fin à cela. Mais c'est parce que notre peuple est d'accord. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vieilles femmes qui veulent encore pratiquer l'excision. Il y en a, mais elles ne trouvent plus de jeunes filles pour faire l'excision. Donc, elles tombent dans l'obsolescence, leur travail devient inutile.
Vous avez changé le nom de ce pays et vous avez remplacé certaines notions administratives par les mots en langue locale. Pour quelles raisons?
Bon, là aussi, c'est pour affirmer notre identité. Je pense que notre peuple comprend mieux ce que veut dire Burkina Faso que Haute-Volta. Qu'est-ce que ça veut dire Haute-Volta? Il faut d'abord être allé à l'école française pour savoir ce que ça veut dire. Or, à l'époque où on créait le nom Haute-Volta, on n'avait même pas 1% d'alphabétisés chez nous. Pourquoi Haute Volta? Pourquoi pas Basse Volta? Pourquoi Volta? Non, au contraire, nous avons choisi un nom qui veut dire quelque chose chez nous. Mm-hmm. Et c'est important pour cela.
Mais est-ce que vous ne privilégiez pas toujours une certaine ethnie, une certaine langue?
Non. Non, nous respectons les rapports statistiques qu'il y a entre ces langues. Le pays s'appelle Burkina Faso. Eh bien, le mot Burkina est un mot moré, qui est tiré du moré. Les Mossi sont les plus nombreux dans ce pays. Bon, cela est une réalité. Faso, ça vient du Djoula. Les Djoula sont les deuxièmes en nombre. Les habitants s'appellent Burkinabé. C'est une consonance Peul. Les Peul sont troisièmes. Le Ditanier, c'est-à-dire notre hymne, c'est un nom lobby, que nous avons pris. Il y en a pour toutes les langues, bien sûr. Toutes n'ont pas la même importance numérique, du point de vue du parler.
Selon vous, quels étaient les changements les plus importants depuis l'avènement de la RDP?
Bon, je n'aime pas tellement cette question, parce que je suis moi-même acteur, je ne sais pas. On dit chez nous que un danseur ne peut pas savoir s'il danse bien. C'est les autres qui le regardent, qui peuvent dire « toi tu danses bien » ou bien « toi tu danses mal ». Bien. Nous sommes là, nous sommes acteurs. Mais nous pensons, en toute modestie, que nous avons remporté des victoires. Nous avons construit plus d'écoles qu'il y en avait avant. Nous avons multiplié le taux de scolarisation par deux. Nous sommes passés de à peu près 11-12% à plus de 23% maintenant. Et nous allons, cette année, passer certainement à 25%. Bon, nous avons construit un poste de santé primaire par village et nous sommes en train de créer la conscience pour que les gens entretiennent ces postes de santé. Et il y a eu un début, il y a eu un recul et maintenant les gens ont pris l'habitude, ils veulent les soins de santé et on peut repartir. Nous avons fait des barrages, plus de 226 barrages, petites retenues d'eau, je veux dire. Nous avons fait des forages pour que les gens aient de l'eau potable. La femme chez nous faisait plus de 15 km pour avoir de l'eau, pas forcément potable. Parfois, c'était de l'eau verdâtre, saumâtre. Maintenant, à moins de 5 km, elle peut trouver de l'eau. Et nous pensons que nous allons réduire encore cette distance-là pour que ce soit 1 km et puis un jour que ce soit 10 cm, c'est-à-dire la distance jusqu'au robinet. Nous avons construit des routes. Nous avons construit des logements en ville, en campagne. Nous avons, sur le plan économique, réalisé des performances. Vous savez qu'à la BCAO, nous sommes de tous les États là-bas le pays le plus stable sur le plan économique. Et cela sans aucun centime du FMI, sans les prêts des autres. Nous sommes stables. Bon, tout ça, ce sont des victoires. Mais je crois que la plus grande des victoires, c'est la transformation des esprits. Le Burkinabé a confiance en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais enfin, c'est cela qui me paraît être le plus important. Tout le reste, vous pouvez même oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que les Burkinabés ont pris conscience maintenant, ils ont confiance en eux-mêmes. Mm-hmm. C'est la première et la plus importante des victoires.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez aussi connu des échecs et est-ce que vous avez commis des erreurs personnelles?
Ah oui, nous avons commis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Beaucoup d'erreurs surtout. Ça, beaucoup, énormément. Mm-hmm. Mais j'ai dit que chaque jour nous commettons des erreurs. Chaque jour nous commettons encore plus d'erreurs. Mais la différence, c'est qu'avant, nous commettions 100 erreurs et nous avions 0 victoire. Maintenant, nous commettons peut-être 10 000 erreurs, mais nous avons 2, 3, 4 petites victoires. Nous avançons. Mais nos erreurs sont tellement nombreuses qu'il m'est difficile de les citer. Mais retenez que cela me rend triste. Nous avons beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans l'appréciation de la situation, dans l'appréciation des hommes, dans notre... Nous-mêmes, on se décourage parfois, ou bien on est impatient, ou bien on est intolérant, ou bien on est sectaire. Je prends tout cela à mon compte parce que c'est moi le président. Toutes ces erreurs, c'est moi. Donc ça me rend triste très souvent.
Est-ce que vous constatez toujours les erreurs à temps?
Ça, c'est une autre erreur, c'est-à-dire que parfois, nous n'arrivons pas à les constater suffisamment à temps. Mais l'essentiel est que nous acceptions que nous commettons des erreurs. Peu importe qui commet ces erreurs, l'essentiel est que nous les acceptions comme nos erreurs à nous tous.
L'autosuffisance alimentaire est votre but primordial. Mais comment l'atteindre avec l'insuffisance des pluies?
Par les barrages. Il faut faut beaucoup de barrages, beaucoup de retenues d'eau. Grand barrage, petit barrage, c'est ce que nous faisons. Vous voyez, nous avons créé un ministère de l'eau, spécialement chargé de l'eau, rien que de cela. Et c'est pour l'autosuffisance alimentaire. Nous ne pouvons pas nous en tenir uniquement aux pluies. Non. Mais même, bien sûr, dans le cadre des pluies, nous tentons les pluies provoquées. Alors, il faut beaucoup de barrages. Après, essayer de régénérer les sols. Régénérer les sols, c'est le reboisement. Ce que nous essayons de faire. Vous savez que nous allons lancer cette année une grande campagne, la ceinture verte, au nord du pays. Et que nous allons déplacer plusieurs milliers de personnes pour aller planter les arbres là-bas. Et pour cela, je lance un appel à vos lecteurs. Nous demandons le soutien de tous ceux qui veulent nous aider. Ceux qui veulent nous envoyer, que ce soit de l'argent, que ce soit des pelles, des pioches, que ce soit du carburant, que ce soit des graines, des semences, que ce soit du grillage, que ce soit des arrosoirs, que ce soit des équipements, parce qu'il y aura des campements là-bas, il faut nourrir les gens, ou bien pour soigner les gens pendant qu'ils seront sur les chantiers, ou bien ceux qui veulent eux-mêmes venir planter les arbres avec nous, ils seront les bienvenus.
Planter, c'est encore relativement vite fait, mais comment protéger tous les arbres?
Nous sommes obligés de prendre des mesures contre les animaux, surtout la divagation des arbres, des animaux. Nous sommes obligés de prendre des mesures contre la coupe abusive du bois. C'est pour ça que nous apprenons les trois luttes.
Mais je ne vois pas tellement des sanctions contre les gens qui ne respectent pas ça.
Oh, il y a beaucoup de sanctions qui sont prises. Et on nous a même critiqué, on a dit que nous étions très durs envers les gens. Mais maintenant, ils ont pris une certaine habitude. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde est discipliné. Mais vous qui connaissez notre pays, il y a quelques années, on voyait des animaux dans les rues de Ouagadougou. On ne les voit plus. Parce que nous avons donné l'autorisation à nos compatriotes d'attraper, de tuer, de manger les animaux qu'ils vont voir, qui traînent sans gardien. C'est la seule façon, parce que tous les animaux dévorent les arbres. Et nous sommes obligés de nous endetter par milliards pour essayer de replanter, de faire du reboisement. Il faut arrêter. Nous avons dû prendre ces mesures. Ça a été très dur, ça a été très critiqué. Mais maintenant, ça marche.
Certains gens, surtout en ville, s'inquiètent pour la question de la bière.
Oui.
Vous voulez interdire de faire brasser la bière à partir des matières importées. Mais comment est-ce que vous voulez prendre le mil s'il n'y a même pas assez de mil à manger?
Parce que d'abord, la bière n'est pas une priorité. Qu'est-ce qu'on choisit? Le mil pour manger ou le mil pour boire la bière? Je crois que c'est d'abord pour nourrir les gens. Ensuite, on verra pour ceux qui veulent boire la bière. Tous les Burkinabés ne boivent pas la bière, mais tous les Burkinabés mangent chaque jour. Alors, donc, cela veut dire qu'il y aura la bière à condition, premièrement, que les gens aient fini de manger à leur faim. Deuxièmement, à condition que ce soit à partir du mil du Burkina. Est-ce que ça peut être la préoccupation d'un régime, un politique sérieux qui aime le peuple, que de considérer les buveurs de bière? Ils sont combien de personnes au Burkina? Alors.
D'accord. Vous parlez aussi de beaucoup de la modernisation de l'agriculture. Mais est-ce que ça ne crée pas trop de dépendance, des importations encore des machines, des engrais, grains, etc.?
Oui, c'est vrai ça. Mais nous luttons contre l'importation des engrais, au contraire, les engrais chimiques, au contraire, nous développons des engrais organiques, hein, la fumure organique. C'est plus riche, parce que les engrais chimiques appauvrissent le sol s'ils ne sont pas entretenus par... S'il n'y a pas une fumure organique, s'il n'y a pas un milieu organique pour que les éléments agissent, vous appauvrissez votre sol. Vous pouvez mettre un engrais sur du sable, il n'y a rien. S'il n'y a pas de matière organique. Vous pouvez mettre l'engrais sur un rocher, il n'y a rien s'il n'y a pas de matière organique. Et notre peuple, nos paysans, sont en train d'apprendre la fumure organique. Bon... La modernisation, ce n'est pas forcément les tracteurs non plus, c'est aussi les charrues. Nous essayons de les fabriquer ici et nous cherchons des partenaires, d'ailleurs, pour reprendre les vieilles voitures qui sont accidentées, la tôle, pour fabriquer des charrues, pour faire des petites fonderies et fabriquer des charrues. Alors, vous pourrez voir en Allemagne, vous qui avez des hauts fourneaux, si des gens peuvent venir faire des petits fourneaux chez nous. Et les charrues, c'est ça d'attraction animale. Et ça, c'est l'élevage. Donc, c'est l'association élevage-agriculture pour entretenir le sol aussi.
On attend toujours la fameuse réforme agraire. On a dissous les OAD, mais on ne les a pas encore remplacés. Pourquoi?
Bon, ça, ce sont des lenteurs administratives, je reconnais. Voilà une de nos erreurs, en tout cas un de nos échecs, mais que nous allons corriger, même si c'est pour quelques mois.
Bon, un grand thème au Burkina, c'est la libération de la femme. Moi, j'en suis très contente, mais certainement pas tous les maris qui voient leur épouse partir aux réunions au lieu de préparer. Qu'est-ce que vous faites avec ces maris?
Bon, d'abord, j'essaie d'abord de les comprendre parce que ce n'est pas évident que un homme accepte que sa femme sorte à 16h, à 17h pour aller à une réunion et puis qu'elle revienne très tard, la nuit, 20h, 21h. Bon, ça nous choque, ça nous révolte. Et puis, nous avons été éduqués dans une société où l'homme est supérieur à la femme. C'est ce qu'on nous a dit dès notre enfance. Notre mère, nos mamans nous ont éduqués comme ça. Bon, alors, il y a tout un travail qui est très difficile. Nous essayons de faire comprendre aux femmes aussi qu'il faut respecter les hommes pour que la transformation se fasse en douceur. Il ne faut pas les choquer. Ça demande beaucoup de tact, hein, de part et d'autre. Ce n'est pas aisé. Et je dois dire que nous voyons parfois des succès, mais nous voyons parfois des échecs très lamentables. Et il faut insister. Ce n'est pas aisé du tout.
Vous êtes contre la division de travail qui défavorise souvent la femme. Comment est-ce que vous organisez votre propre ménage?
Eh bien, j'avoue que dans mon propre ménage, je ne sais pas si je donne un bon exemple, je ne sais pas. Nous faisons un peu tout. Ma femme fait le ménage, moi aussi je fais le ménage. Nous sommes tous les deux fonctionnaires. Elle va au travail, moi aussi, nous revenons. Mais surtout, j'insiste pour que nos enfants, au moins, ne soient pas éduqués dans l'esprit de « le garçon est supérieur à la fille ». Nous avons deux garçons. Bon, nous n'avons pas de filles. Mais nous avons d'autres fillettes qui sont avec nous, qui sont des cousines, des enfants, des amis que nous avons prises chez nous, adoptées chez nous. Et nous voulons qu'ils aient les mêmes droits, sans différence de sexe. Bon, je crois que c'est le plus important. Ce sont les femmes qui peuvent transformer le monde. Si chaque femme éduque son enfant en montrant que les sexes sont égaux, c'est bien. Mais généralement, ce sont les mamans elles-mêmes qui disent « Toi, tu es garçon, tu dois aller faire telle chose. Toi, tu es fille, voilà des poupées pour toi. »
Malheureusement, oui.
Malheureusement, c'est comme ça.
Parlons des fonctionnaires. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce potentiel d'ennemi? Les mesures entreprises par le gouvernement, ils ont touché quand même brutalement. Ils ne sont pas du tout contents.
C'est vrai, ils ne sont pas contents, je les comprends. Moi-même, je suis fonctionnaire, je comprends leur situation. Ils avaient des salaires très élevés. Aujourd'hui, on leur demande de partager tout avec le peuple. Pour eux, ils ont perdu quelque chose. Alors, moi, il y a un choix à faire, hein. Ou bien nous cherchons à contenter les fonctionnaires, ils sont à peu près 25 000, c'est-à-dire 0,3% de la population, même pas. Ou bien nous cherchons à nous occuper de tous ces autres-là qui ne peuvent même pas avoir un petit comprimé de Nivakine ou d'aspirine et qui meurent simplement parce que tétanos ici, quoi là-bas. Les fonctionnaires ne savent pas ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire. Ils ne savent pas ce que c'est que la sécheresse. Mais il y a combien de Burkinabés qui sont morts à cause de la sécheresse? Ils sont très nombreux. S'il faut prendre ça en compte, cela veut dire qu'il faut trouver la solution. Ça va être un peu difficile pour les fonctionnaires. Et je trouve tout à fait normal qu'ils ne soient pas contents. Je ne trouve pas cela grave. Je trouve cela normal. Et c'est pourquoi, dans tous les discours, je dis il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Et petit à petit, essayez de leur expliquer que même si vous avez à manger, même si vous êtes riche en tant que fonctionnaire, si le peuple est misérable, et continuez d'être abandonné dans la misère, un jour le peuple va vous empêcher de manger tranquillement. Il sera d'abord à votre porte et ensuite il va foncer dans votre maison pour tout casser et manger avec vous. Par la force, ça c'est pas bon non plus. Il vaut mieux la solution que nous proposons actuellement, qui est un peu difficile, plutôt que l'autre solution qui peut arriver un jour, qui sera la violence.
Qu'est-ce que signifie pour vous personnellement d'être un chef d'État?
Beaucoup de responsabilités. Parce que il faut être responsable de tout. Il faut gérer la joie de tous vos compatriotes, entretenir cette joie-là permanente. Faire en sorte que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il n'y ait pas un seul qui soit triste. C'est difficile. Ça, c'est très difficile. Bon. Réussir le bonheur, c'est être responsable de tout. Or, les hommes ne vont pas être d'accord avec tout ce que vous leur proposez. Vous pouvez avoir une idée que vous estimez juste, bonne. Si tout le monde fait telle chose, nous allons vers le bonheur. Mais tout le monde ne fera pas ça. Pendant que vous dites aux gens, nous allons marcher dans telle direction, il y en a qui vont marcher dans une autre direction. Pendant que vous direz, prenons le cas de la santé. Le budget, moi je peux économiser plusieurs millions au niveau de la santé, peut-être même milliards au niveau de la santé, si les gens acceptent de faire comme je souhaite, de ne plus boire d'alcool. Ce n'est pas bon pour la santé, de ne plus fumer de cigarettes, ce n'est pas bon pour la santé. Tous les médecins du monde entier ont démontré cela. Mais est-ce que les gens vont accepter? Ils n'acceptent pas. Ils boivent, ils sont malades, il faut les soigner. Ils boivent, ils sont sous, ils font des accidents, ils se blessent, il faut les soigner. Ils sont absents du travail, c'est des journées de travail en moins. Tout ça, ce sont des problèmes. Ils boivent, ils n'arrivent pas à bien éduquer leurs enfants. Leurs enfants ne travaillent pas bien à l'école, ils deviennent des voyous, des bandits, des voleurs. C'est des problèmes. Ils boivent, ils oublient leurs femmes. Mais tout ça, ça fabrique des prostituées. C'est mauvais encore pour la société. Voilà un exemple de problème que l'on peut résoudre. Si tout le monde était d'accord. Mais tout le monde ne sera pas toujours d'accord. Il y en a qui vont de temps en temps boire une bière, même importée. Et puis, c'est des problèmes.
Est-ce que vous savez ce que le peuple pense de vous?
Je ne sais pas tout ce que le peuple pense de moi. C'est difficile pour moi de le savoir. Mais je crois que si on aime son peuple, si on s'intéresse à son peuple, on doit savoir de temps en temps, au moins dans les grands traits, ce qu'il pense.
Mais vivre avec les masques, qu'est-ce que ça peut signifier pour l'homme qui vit au palais présidentiel?
L'homme qui vit au palais présidentiel, c'est être au palais présidentiel parce qu'il a là-bas besoin d'un cadre pour des raisons de protocole, même de sécurité, pourquoi pas. Mais c'est faire l'effort pour être au palais présidentiel, mais avoir son esprit hors du palais. Et c'est pourquoi je vais souvent dans les provinces de tourner, voir les gens, discuter avec eux, prendre leurs idées, discuter avec eux et être accessible aussi aux gens. Ce qui me permet de connaître certaines choses, de comprendre certaines choses. Il faut être dirigeant, il faut être au dixième étage, ce qui vous permet de voir loin, très loin, mais de temps en temps descendre au rez-de-chaussée pour voir également immédiatement dans la rue qu'est-ce qui se passe.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes président?
J'ai découvert des réalités que je ne connaissais pas. Je les connaissais peut-être théoriquement, mais j'ai découvert cela. Je crois que j'ai appris à être beaucoup plus tolérant, à comprendre que les hommes ne sont pas identiques. Les hommes sont très différents. Qu'une idée peut être juste, mais tout le monde peut. Ce n'est pas parce qu'une idée est juste qu'elle sera d'emblée acceptée par tout le monde. Et que chacun pour arriver, pour accepter cette idée-là, a besoin d'une explication qui passe par des chemins parfois différents. Chez nous, on dit, il y a un proverbe de chez moi qui dit ceci, je le connaissais ce proverbe, mais maintenant je vois qu'il est vrai. Pour guider son troupeau, le berger a besoin d'un bâton, un seul bâton. Il peut guider un troupeau de 100 bœufs, 1000 bœufs, 10 000 bœufs. Mais pour guider un peuple, on a besoin pour chacun une règle bien adaptée. Il y en a qui veulent des règles longues, il y en a qui veulent des règles petites, il y en a qui veulent grosses, il y en a qui veulent petites, souples, dures, avec des épines, sans épines. Enfin, il faut adapter à chacun. Donc, il faut parler à chacun le langage qu'il veut. Je devrais avoir un seul objectif, 8 millions de discours, pour adapter les discours à chacun. C'est pas facile.
Comment est-ce que vous voyez votre propre avenir?
Mon propre avenir, je le vois lié aux masses populaires. C'est-à-dire que je serais heureux si les gens sont très heureux. Si malheureusement je n'arrive pas à cela, j'aurai un avenir très sombre.
Est-ce que vous avez peur d'un coup d'État?
Je n'y pense pas. Ça peut arriver, remarquez, mais je préfère ne pas y penser. Je me dis que coup d'État ou pas coup d'État, la solution résidera dans la capacité pour les masses à nous protéger, à s'identifier à nous. Bien sûr, quelqu'un peut sortir de la foule et puis tirer sur le président, voilà, il est mort. Mais bon, ça c'est une chose qui peut arriver à tout moment. Mais le plus important, c'est qu'à tout moment aussi, le peuple ait besoin de tout le monde. Les dirigeants, les autres, le peuple a besoin de chacun de nous. Il faut cela. Parce que nous faisons un travail qui est utile. Nous ne marquons pas des buts à tout moment, mais nous sommes tous utiles dans l'équipe. Il y a les Beckenbauer, il y a les autres, il y a tout le monde, mais tout le monde est utile.
Il y a des rumeurs, toujours et depuis longtemps, sur une mésentente au sein du CNR.
Oui, il y a toujours ces rumeurs et ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine et nous devons faire des efforts pour corriger cela. Mais vous savez, c'est normal aussi qu'il y ait ces rumeurs parce que les gens ne sont pas habitués à voir des dirigeants au sommet s'entendre. Dans notre pays, dans notre pays voisin, en général, on a vu les gens, un an, deux ans, c'est le maximum. Après, ils essaient de s'éliminer mutuellement. Alors, donc on pense que nous aussi c'est tout à fait normal. Pourquoi les autres ont eu des plans dans la tête pour s'éliminer et eux, ils n'auraient pas ces plans. C'est la même chose que quand vous parlez de l'honnêteté, on a vu les dirigeants prendre l'habitude de détourner l'argent du peuple. Les gens pensent que nous aussi, nous allons détourner l'argent du peuple. Ils pensent que... Oui, c'est possible qu'on détourne. Et si quelqu'un dit, moi je pense même qu'il a volé l'argent, après un autre va répéter, oui, moi j'ai la preuve même qu'il a détourné l'argent. Bon, c'est les mêmes choses, on pense. Dans un pays comme chez nous, on n'est pas habitué à voir un homme et une femme travailler ensemble pendant longtemps sans autre forme de relation que le respect dans le travail. On n'est pas habitué à ça. Bon, chez vous en Europe, l'homme et la femme sont assez... le mixage est très avancé chez vous, plus que chez nous. Mais chez nous, ça choque quand on voit un homme et une femme travailler ensemble. Il y a beaucoup de rumeurs aussi qui circulent. Donc, tout ça, c'est le niveau normal de notre société. Et des hommes, même chez vous en Europe, on pense que deux hommes peuvent politiquement lutter pour avoir le pouvoir, pour faire ceci, pour faire cela, pour être des responsables, mais après il faut que l'un élimine l'autre. Même chez vous, on pense cela. Donc, on ne comprend pas pourquoi ça ne se produit pas. Alors, si vous ne donnez pas d'explication, eh bien la rumeur donne ses explications pour boucher le vide, parce qu'on n'a pas le vide, c'est normal.
Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos lecteurs allemands?
J'aurais bien voulu dire ce mot en allemand, mais je m'excuse de ne pas pouvoir bien parler l'allemand. Je le dirai en français. En tout cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le peuple allemand, dans son ensemble, dans sa globalité, puisse connaître le peuple du Burkina, mais les peuples africains en général, et que nous aussi nous puissions le connaître. Que les mauvais sentiments qui ont pu exister entre nous soit dissipée. L'Allemagne, c'est le pays de Hitler. C'est comme ça que l'on voit, c'est surtout ce que l'on connaît. Mais on peut changer pour que l'Allemagne devienne le pays de grands sportifs, que l'Allemagne soit aussi le pays de la technologie très avancée, que l'Allemagne soit le pays où on respecte l'environnement. On peut aussi avoir cette perception-là. Vous avez eu de nous, l'Afrique, c'est le pays des sauvages, des esclaves, les gens qui vivent dans la brousse avec les lions, les hyènes. On peut changer pour voir l'Afrique comme le pays des hommes qui sont hospitaliers, qui sont ouverts aux autres hommes, qui les accueillent. Et ne pas transformer cette hospitalité-là en forme de complexe de supériorité. Ce n'est pas parce que j'ai ouvert ma porte que je suis inférieur à vous. J'ai voulu vous respecter. Bon, à partir de là, nous pouvons établir des coopérations, des formes de coopération très denses, très intenses et très fructueuses. Et que les Allemands puissent nous reprocher ce qu'ils ont à nous reprocher, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des choses à nous reprocher, mais que nous aussi nous puissions reprocher aux Allemands ce que nous avons à leur reprocher, mais que cela ne provoque pas d'inimitié entre nous, parce que c'est une critique objective pour progresser.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.